camarade de la revue des matins s'installe. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler de d'Ayn Rand, Xavier Delaporte. Pas encore. Vous allez nous parler des chroniques que vous n'avez pas eu l'occasion de faire.
Non. Puisque nous nous quittons pour 8 semaines, permettez-moi ce matin de faire la chronique des chroniques que je n'ai pas faites, pour diverses raisons qui tiennent tantôt au moment qui ne vient jamais. Dans chronique, il y a chronos, tout est affaire de moment. Tantôt, c'est à la paresse face à des sujets trop compliqués, tantôt à l'oubli pur et simple, mais qui tiennent le plus souvent au temps scandaleusement réduit qui m'est imparti et que décidément je
le
ne saurais pas expliquer.
Le gimmick de l'année, mon Dieu.
Cette année, je n'ai pas fait de chronique sur la déconnexion. Et pourtant, cet été, je vais me déconnecter parce que je suis connecté toute l'année. Ah mais je vais pas lire non plus, parce que je lis toute l'année, puis je vais pas réfléchir parce que je réfléchis toute l'année, je vais pas discuter avec des gens parce que je le fais toute l'année et que c'est vraiment très pénible, je ne vais pas aimer non plus parce que je le fais toute l'année, pas forcément très bien, mais je ne vais pas non plus m'occuper des enfants parce que je ne le fais toute l'année, donc je vais me retrouver seul face à moi-même et ça va être l'horreur, vive la déconnexion. Cette année, je n'ai pas fait de chronique sur tous ces gens qui m'ont dit en se marrant « Hey, puisque tu t'y connais en informatique, tu veux pas réparer mon imprimante ?» Je ne leur ferai pas le plaisir de leur accorder 4 minutes d'antenne à ces gens, même si 4 minutes c'est très court, confère supra. Parce que, contrairement à ce que sous-entend leur petit ton narquois, j'adorerais savoir réparer une imprimante. J'en serais même très fier. Et que si je conçois une honte, ce n'est pas de parler d'informatique, mais de ne pas en connaître assez pour réparer vos ordinateurs et pour pouvoir vous mépriser quand vous paniquez parce que votre clavier est passé soudainement en QWERTY. J'aimerais tellement vous mépriser. Mais le problème, c'est que moi-même, je panique quand mon clavier passe en QWERTY. Et si j'avais le temps, ce matin, je me lancerais dans un éloge follement lyrique pour célébrer ces héros des hotlines, tous ces rois et reines des câbles, des microprocesseurs et du code qui sont un peu les gastro-entérologues de nos autres flux. Cette année, je le regrette, je n'ai pas assez parlé de sexe. Cette année, et je le regrette aussi, je n'ai pas fait de chronique sur le seul sujet qui m'angoisse vraiment. Quel protocole est prévu le jour où les extraterrestres arriveront sur Terre? Qui les accueillera? En quelle langue on leur parlera? Qu'est-ce qu'on leur offre comme cadeau? Qu'est-ce qu'on a prévu de leur donner à manger? Où on les installe? L'idée que si on ne s'est pas mis d'accord avant, on puisse se montrer hésitant, voire inconvenant, le jour où les aliens arriveront, me panique complètement. Mon seul espoir, qu'on ait confié la playlist d'accueil à Mathieu Conquet. Cette année, j'ai réussi à faire 200 chroniques sur le numérique sans parler ni de la neutralité du net, qui est un des sujets les plus importants du point de vue économique et technique, ni de Xavier Niel, qui est manifestement un des grands acteurs français du champ, ni de la voiture autonome, ce qui est sans doute un des grands enjeux contemporains. Et le pire, c'est que personne n'a remarqué ses absences, tout le monde s'en fout. Cette année, je n'ai pas fait de chronique sur cet ami bienveillant qui vit dans les ordinateurs, qui, étant bizarre, voit des choses bizarres dans Internet et qui m'abreuve tous les jours de liens vers des bizarreries qui font du web un nouveau traité des passions foutraque et très peu cartésien. Cette année, je n'ai toujours pas fait de chronique sur les mails d'auditeurs et auditrices qui ont vraiment changé notre vie de journaliste et qui, même quand ils sont pleins de colère, sont nécessaires et instructifs, surtout celui du monsieur qui me demandait l'autre jour conseil pour choisir sa machine à laver.
Qu'est-ce que vous lui avez conseillé justement, Xavier?
Une machine connectée.
Comme je suis aussi compétent en machine à laver qu'en ordinateur, ça a été pas super. Cette année, je n'ai pas fait de chronique sur un usage, vraiment très très pointu du smartphone, que j'ai découvert à l'occasion de cette matinale et qui consiste, de la part de certains invités, hommes d'un certain âge, heureusement ça n'arrive pas souvent dans cette matinale, à faire semblant de regarder leur écran de smartphone pour pouvoir mater peinard les seins de Zoé Svez.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ses seins, mais son magnifique cerveau qui permettent à Zoé Svez de déchiffrer chaque matin en direct la feuille noircie de caractère runique qui lui tient dans le lieu de chronique et dont le mystère aurait découragé la patience et la compétence de Champollion.
Il faudrait poster une photo de ces feuilles.
Cette année, je n'ai pas fait de chronique sur le poème d'Alfred de Musset qui m'énerve beaucoup, intitulé « Sur la paresse », où il s'en prend notamment au, je cite, « seigneur journalisme et ses pantanolades ». Bon, ça pourquoi pas, mais où il fustige, je le cite à peu près, « ce droit quotidien qu'un sot a de berner 200 milliers de sots au petit déjeuner ». Poème qui oublie qu'il n'y a rien de sot dans l'intense plaisir à être berné et berné, que ce droit est d'abord un honneur et qui m'amène à la seule conclusion qui aura compté cette année, quel con ce Musset.
une réaction.
Christophe André, bon, lui par exemple se connecte. Alors bon, il trouve qu'il n'a pas assez parlé de sexe. Je ne demanderai pas ce que le psychiatre en pense, mais bon, votre avis général.
On en a parlé ensemble avec Christophe André.
On a évoqué ça lors d'une discussion. Non, moi j'ai un point où j'ai été très admiratif, c'est quand vous dites finalement il y a plein de chroniques que je n'ai pas fait par paresse parce que le sujet était trop compliqué, j'aurais passé trop de temps. Et j'ai eu souvent cette honte par rapport à des papiers que je devais faire où je devais choisir de parler de tel ou tel bouquin. Et, oh non, là c'est trop compliqué, j'ai passé trop de temps et je me suis dégonflé, j'avais jamais entendu courageusement avouer cette recul à
un héros chroniqueur. Vous n'êtes pas en train de nous expliquer, Christophe André, que vous procrastinez.
Non, mais parfois je me déballonne par rapport à la masse de travail qu'il y a à faire.
Régis Debray, une chronique que vous n'avez pas encore
faite. Je suis un admirateur inconditionnel de notre ami, donc je n'ai rien à dire, sauf qu'il parle trop vite et qu'il pense trop vite. Moi, je suis un esprit lent, mais c'est pourquoi j'ai besoin à chaque fois de relire ce qu'il a fait, parce qu'il pousse le journalisme comme un art, finalement, où il y a la forme et le fond. Autrement dit, il faudrait qu'il publie ça et qu'il affiche ça un peu partout.
Il le fit, naguère. Il le refera peut-être, mais on peut
ça a
trouver...
été un succès d'édition d'ailleurs. Qui a bouleversé le
numéro 1
oui,
sur
il vit
Amazon.
De ça depuis des années. Oh, oui. Sur un mot sur Ayn Rand, Xavier Delaporte, puisque vous avez consacré oui. Bah, cinq émissions d'été.
Quand son entraîneur m'a proposé de faire un avoir raison avec, on a décidé qu'Ayn Rand serait une bonne auteure à laquelle se confronter, puisque c'est compliqué d'avoir raison avec elle.
Qui était
C'était une femme absolument fascinante. Sa vie est absolument fascinante. Non, puisqu'elle est née en Russie en 1905 et qu'elle a quitté la Russie parce que sa famille juive bourgeoise a été voilà, avec ce qu'on a vécu,
parce
ce type de famille
en Russie, quitter la Russie
voilà, et qu'elle est arrivée aux États-Unis sans argent en poche, qu'elle est allée à Hollywood, qu'elle a réussi à travailler à Hollywood en attrapant Cécile B 2000 comme ça, en commençant comme scénariste, et puis après elle a développé une œuvre qui est en gros est allée dans deux directions, qui est d'un côté une sorte d'œuvre théorique sur une sorte de libertarisme, théorie de l'égoïsme, qui est vraiment vraiment assez affreuse, hein, il faut le dire, et de l'autre côté une œuvre romanesque qui met en scène de manière romanesque ses théories économico-philosophico-politiques, mais qui les met en scène d'une manière qui, pour le coup, est très étonnante, puisqu'elle est fascinante. C'est-à-dire que c'est deux grands romans qui dégoûtent et fascinent à la fois, qui sont d'une puissance littéraire assez étonnante. Et donc, pendant ces cinq émissions, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est à la fois comment elle se place dans l'histoire, à la fois qui elle est, parce qu'elle a d'une importance assez capitale dans la manière dont se constitue la pensée américaine aujourd'hui, enfin dont elle s'est constituée, parce que le libertarianisme, c'est important aux États-Unis, et parce qu'aujourd'hui ça se réactive, et notamment dans le monde de la Silicon Valley, qui va énormément puiser dans la lecture de Ayn Rand, pas simplement Donald Trump, qui a dit que c'était sa lecture favorite, mais beaucoup d'autres, et donc du coup essayer de comprendre comment ça constitue une partie de l'âme américaine et comment ça peut exercer une forme de fascination et d'intérêt sur nous.
Avoir raison avec Ayn Rand, on vous retrouve Xavier Delaporte du 24 au 28 juillet pour s'initier à cette auteure qui est extrêmement importante. Voilà.